Oui, c'est exactement dans cette direction qu'on va, avec tous les rapports du GIEC qui ont toujours été extrêmement prudents, et la réalité va à chaque fois au-delà, du plus mauvais scénario ou du scénario le plus grave pour les humains.
Rien que cette année, on voit que les tornades se succèdent. Il y en a une qui va frapper une côte de Floride la nuit prochaine. En Suisse, on attend la pluie plus que jamais. C'est ces signaux-là auxquels on se doit d'être attentif.
C'est en tout cas le cumul de ces signaux, le cumul des événements extrêmes qui sont renforcés par le réchauffement climatique. Bien souvent, ce ne sont pas des phénomènes qu'on ne connaissait pas du tout auparavant, mais on a une plus grande fréquence de ces phénomènes ou des intensités qui sont renforcées par l'augmentation des températures.
Les experts du GIEC évoquent l'hypothèse d'un réchauffement contenu à plus 1,5 degré par rapport à la pré-industrialisation. 1,5 degré, on parlait souvent de 2 degrés. Que change ce demi-degré?
Ça change beaucoup parce que par rapport au réchauffement qui nous resterait à atteindre, on est du simple au double. Le demi-degré ou le degré entier, c'est le double. Donc c'est en fait la différence est énorme.
Et surtout, depuis cette fameuse ère de pré-industrialisation, on a déjà assisté à une augmentation, à un réchauffement de 1 degré.
Oui, c'est quasiment depuis les années 70 qu'on a augmenté les températures de 1 degré. Donc c'est assez rapide, c'est pendant quelques dizaines d'années. Bon, ça c'est la moyenne pour l'ensemble du globe, y compris au-dessus des surfaces océaniques. Mais en Suisse, par exemple, on est au double de cette valeur. Et si vous prenez les régions polaires, on est encore à des valeurs qui sont bien plus élevées. Donc localement, régionalement, on a des réchauffements qui sont vraiment très très importants.
Et ce scénario n'est pas le scénario idéal, on parle bien du moindre mal.
Oui, parce que aujourd'hui on est encore dans des proportions acceptables dans ses conséquences avec le degré qu'on a déjà atteint. Mais là, si on part pour encore davantage, évidemment, c'est pas juste un cumul par rapport à ce qu'on a déjà. On a plutôt des phénomènes qui enflent de manière disproportionnée par rapport à l'augmentation effective de la moyenne. Peut-être pour être plus clair, les extrêmes de température en été, les canicules, si on a 1 degré de plus en moyenne, vous allez avoir plusieurs degrés d'augmentation ou degrés supplémentaires pendant les périodes extrêmement chaudes, parce que le phénomène enfle.
Alors selon le GIEC, selon les experts, il reste 30 ans au plus tard pour agir. Mais quand on voit la difficulté d'opérer la transition énergétique au niveau des infrastructures, mais aussi la difficulté que tout un chacun a de changer ses habitudes, est-ce que cet objectif est seulement tenable?
Alors, c'est pas possible de tenir cet objectif en continuant de faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire avec des économies de bout de ficelle et puis en maintenant l'essentiel sans avoir une redirection drastique. On a les techniques, on a économiquement, c'est vraiment tout à fait possible. On va vers probablement plus de qualité de vie, plus d'emplois, de la génération même de bien-être et de bénéfices en tournant vers des nouvelles énergies. Mais ce n'est pas les mêmes qui gagnaient avant, qui vont continuer à gagner dans le futur. Donc on a une forte résistance avec des lobbies extrêmement forts qui peuvent investir l'argent des énergies fossiles pour maintenir le statu quo et éviter qu'on évolue.
Raison pour laquelle c'est pas étonnant qu'on lise ces jours-ci des antithèses, par exemple le spécialiste des avalanches Werner Münter, dont une interview circule sur les réseaux sociaux, pour qui eh bien cette arrogance, c'est de l'arrogance de croire que en 150 ans l'homme a changé quelque chose.
Oui, on a toujours ces phases de désinformation qui sont très bien orchestrées, bien organisées à chaque fois qu'on a la publication de résultats de recherche qui vont entraîner l'action politique et une action politique qui va vraiment risquer de réduire la consommation du pétrole et du charbon. Donc,
C'est de la désinformation pour vous.
c'est de la désinformation pure puisque c'est contraire aux faits observés.
Alors plusieurs voies sont possibles pour lutter contre le réchauffement. Alors évoquons la voie scientifique, technologique. Il y a des pistes ambitieuses dont on parle, le pompage du gaz carbonique, des aérosols dans l'atmosphère pour réfléchir le rayonnement solaire ou encore fertiliser les océans. Autant de voies prometteuses, mais est-ce qu'elles seront prêtes à temps et à suffisamment large échelle pour changer quelque chose?
Alors, il y a déjà beaucoup de voies qui sont pas seulement prometteuses, mais qui sont déjà prêtes. Changer tout ce qui concerne le chauffage ou le rafraîchissement des locaux, là, on est aujourd'hui déjà capable d'avoir des techniques qui consomment aucune énergie fossile. L'énergie solaire est capable de faire énormément et aujourd'hui, on a les techniques pour l'utiliser. Après, tout ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou les quantités de gaz à effet de serre qui se trouvent dans l'atmosphère sera bon à prendre, mais pas au prix d'une perturbation d'autres systèmes comme les océans, la circulation océanique, la vie, la pollution de l'air et ce genre de choses. Bien souvent, dans les techniques que vous avez évoquées, ça nécessite d'utiliser beaucoup d'énergie pour y parvenir. Donc là, évidemment, c'est pas ce qu'on veut non plus.
Il y a le rêve qu'un jour la science puisse nous permettre de compenser nos émissions de CO2, mais quoi qu'il arrive, pour que ça change, pour que le réchauffement soit contenu, il faut des mesures drastiques au niveau du quotidien de tout un chacun.
Oui, c'est des mesures au quotidien, mais c'est aussi beaucoup des orientations politiques pour faire en sorte que le virage se prenne. Et je pense que c'est le message essentiel qui vient aujourd'hui avec les résultats de ce rapport, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire les tout petits pas qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire ce qui se fait à peu près tout seul par une évolution naturelle. Et c'est exactement ce qu'on fait en Suisse, c'est que, en général, on demande aux capitaines d'industrie, bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire qui coûte rien à personne, et puis voilà nos objectifs, et puis le reste, on le fera à l'étranger. On ne peut plus faire comme ça parce qu'en Suisse, on est vraiment beaucoup trop en retard et on devrait être en avance pour pouvoir être suffisamment pionnier dans les techniques aussi d'implantation par rapport à la société et pouvoir vendre nos technologies à l'étranger plutôt que d'attendre avec des technologies du passé qui se maintiennent et qu'ensuite on doive aller acheter à la Chine ou ailleurs les technologies du futur. Ça ne fait pas de sens par rapport au développement actuelle de notre pays.
Est-ce que vous allez jusqu'à dire, comme l'organisation environnementale Greenpeace, que le Conseil fédéral et le Parlement sont carrément en la matière irresponsables ?
Je pense que de plus en plus, on va dans des situations où les États sont même attaqués sur le plan judiciaire par rapport à la responsabilité qu'ils prennent.
C'est le cas en Suisse.
Voilà, et puis on commence à avoir des cas à l'étranger où, s'agissant des Pays-Bas, par exemple, récemment, on a eu confirmation d'un jugement qui oblige le gouvernement à réduire davantage les gaz à effet de serre que ce qu'il avait prévu de faire.
Donc on parlait de la voie scientifique, de la voie politique, finalement c'est la voie judiciaire qui serait la plus efficace.
Contre l'argent qui détermine les voies qu'on va suivre, c'est difficile de trouver une manière d'imposer le bien commun. Parce que lutter contre le réchauffement climatique, c'est vraiment trouver des solutions pour le bien commun de l'ensemble de la population suisse, d'aujourd'hui, de demain et de l'ensemble de la population mondiale. Si on travaille à l'amélioration de la qualité de vie dans l'ensemble du monde, c'est aussi la qualité de vie de chacun d'entre nous ici qui va s'en trouver améliorée.
Le Conseil fédéral n'est pas sourd, il semble avoir entendu le message du GIEC, annonce le jour même qu'il va sans doute revoir à la hausse ses ambitions en matière de réduction de CO2. Pour vous, ça va dans le bon sens ou c'est encore un trop petit pas ?
Alors pour l'instant, c'est des mots. J'attends du concret. Et en particulier, jusqu'à présent, déjà dans ce qui était promis, on parlait de faire l'essentiel en payant d'autres pays pour le faire pour nous, ce qui, pour la Suisse, est absolument honteux. Que les Suisses qui ont de telles capacités financières et techniques ne soient pas capables de faire les choses chez soi, c'est vraiment donner le message à l'ensemble du monde, surtout ne faites rien si même la Suisse n'est pas capable.